Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver pour cet épisode 3 du podcast de Moodstep où je construis mon utopie. Dans l'épisode 1, nous sommes allés à la rencontre de Sandrine Rudeau, spécialiste des utopies, dans l'épisode 2, d'Emmanuel Jafflin, philosophe de notre état. Et Emmanuel m'a parlé des Indiens. Alors naturellement, j'ai pensé à Rama. J'ai connu Rama il y a 10 ans, et Rama est ethnologue, anthropologue aussi. Et elle a vécu avec les Indiens Shipibo. Je me suis dit que c'était parfait, parce qu'en plus, Rama est une personne qui m'a marquée par sa sagesse et sa beauté. Donc c'est avec un immense plaisir que nous allons nous plonger dans une autre culture pour comprendre qu'est-ce qui fait société pour ces tribus. Qu'est-ce que nous ne voyons pas parce que nous sommes baignés dans notre propre culture. On se connecte tout de suite avec le Sénégal, où Rama vit actuellement. Bonjour Rama.
Bonjour Johanna, comment vas-tu?
Je vais bien et je suis extrêmement heureuse de te recevoir sur ce podcast. Dans le dernier épisode du podcast, j'ai interviewé Emmanuel Jafflin, qui est philosophe et qui m'a parlé de ce qu'on appelle les peuples premiers, donc des indigènes. Je ne sais même pas si ce mot est péjoratif, indigène. Mais moi, je me considère comme une indigène de Bretagne, donc ça va. et donc, il m'a parlé des Indiens, et c'est vrai que nous, on est complètement en immersion dans notre propre culture. Et je me suis dit, mais je vais appeler Rama, parce que c'est bien ça, tu as vécu, toi, avec les Shipibo au Pérou. Mais tu as aussi rencontré d'autres tribus, je crois.
Alors, donc c'est vrai que, bon, d'abord, je reviendrai juste par rapport à la terminologie. En fait, c'est vrai qu'indigène, bon, on le dit pas trop. En anglais, c'est plus facile, hein, native people, ça passe bien. Et en français, on va dire les ethnies, les groupes ethniques ou les Indiens d'Amérique du Sud, les Indiens d'Amérique du Nord, même tribus. C'est vrai que c'est, en tout cas pour l'Amérique du Sud, c'est pas tellement en harmonie avec la terminologie qu'on utilise, en tout cas pour du point de vue ethnologique, hein, des américanistes en tout cas qui travaillent sur le sujet n'emploient pas forcément ces termes-là. Donc voilà. Mais oui, effectivement, donc j'avais vécu chez les Shipibo il y a quelques années. J'ai eu l'occasion donc de vivre quelques temps avec eux. Ça a été une grande joie, une grande expérience dans ma vie. J'ai eu l'occasion de connaître lors de ce voyage, enfin de ma période au Pérou, de connaître aussi d'autres ethnies, les ethnies de la même zone en fait, hein, que ce soit des Achaninka, il y avait aussi des Machigenga. Et puis quand j'ai vécu au Venezuela aussi, j'ai eu l'occasion de connaître, là pas de vivre avec eux, mais de visiter en tout cas des Wayuu ou Guajiros. Voilà.
En fait, quand tu es allé vivre chez eux, je suppose que déjà leur mode de vie a beaucoup évolué avec la confrontation, j'ai envie de dire, avec notre civilisation.
Alors oui, je pense qu'on peut dire ça. Maintenant, c'est vrai que les Shipibo, comme ils étaient, ils vivaient sur l'Ucayali et leurs affluents, donc qui est une des rivières principales dans la zone, là, dans la région de Pucallpa où ils sont situés. En fait, ils étaient vraiment très proches de ce grand fleuve, hein, donc ils vivaient sur les rives de ce grand fleuve. Et du coup, les missionnaires, il y a des siècles auparavant, qui passaient par là. Donc c'est toujours un petit peu cette population qui a été en contact avec le monde extérieur, on va dire, le monde des Blancs, des Occidentaux, et puis d'autres ethnies qui étaient plus reculées. Donc c'est vrai que cette population, depuis très longtemps, a l'habitude de dealer, notamment pour le commerce, hein, avec notre monde, on va dire. Et ce qui n'empêche que forcément, leur mode de vie évolue, notamment avec aussi les nouvelles technologies, l'arrivée de l'électricité aussi dans certains villages, et puis les jeunes aussi qui poussent à l'évolution, parce que les jeunes, ça reste des jeunes comme partout, quelque part, qui, avec une curiosité, une soif de modernité, d'être connectés, etc.
Parce qu'ils vivent en tribu ?
Comment ils Alors, vivent ? Alors en fait, l'ethnie donc des Shipibo Conibo, ils vivent au sein de villages. Donc des villages que l'on trouve notamment sur l'Ucayali et ses affluents, mais aussi on les trouve donc là il y a vraiment des villages particuliers où là les Shipibo peuvent se dire moi je suis de tel village, de Charumashi, de San Francisco ou autre. Et après, il y a aussi des Shipibo qui vivent dans les grandes villes parce que qui cherchent des moyens d'existence, qui habitent à Lima, qui habitent à Pucallpa ou autre, et pour justement chercher de quoi survenir à leurs besoins en fait.
En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est que toi, comme tu as vécu avec eux, leur structure, je suppose, familiale et sociale, elles ont déjà beaucoup évolué, elles ont été très influencées, non? Est-ce que tu sais d'où ils viennent là-dessus, sur leur fonctionnement social?
Bon, je pense que c'est des structures avec notamment ce qu'on appelle la famille étendue, c'est-à-dire où il y a un peu le couple fondateur, la mère et le père, et puis leurs descendants, donc première génération et deuxième génération, donc le fait d'essayer de vivre pratiquement tous ensemble. Mais en fait, comment dirais-je, la fille se marie. Et quand elle se marie, enfin les personnes se marient, et quand ils se marient, en fait, la fille va vivre dans sa belle famille. Donc en fait, ce sont toujours les hommes qui vont rester et qui vont faire venir leurs épouses, donc des frères qui vont rester faire venir leurs épouses, tandis que les femmes, elles vont dans d'autres villages pour se marier. Donc ça, c'est un peu la structure traditionnelle. Maintenant, ça peut évoluer dans le sens où auparavant, je veux dire, les partenaires étaient choisis par les familles. Maintenant, ce n'est plus forcément le cas. Ça va être aussi les couples qui vont se former plus par affinité personnelle, alors qu'avant, c'était pas forcément cette même situation. Et puis, ils vont moins vivre dans cette notion de famille étendue, donc plus dans une famille plus nucléaire où on va retrouver papa, maman et les enfants avec une maison pour cette structure-là. Donc, c'est là la différence. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi, qu'on va retrouver ailleurs, notamment en Afrique, où la famille étendue se réduit pour devenir plus une famille nucléaire telle qu'on a l'habitude de le voir en Occident.
C'est vrai que j'ai passé un peu de temps au Sénégal et ça reste quand même. Je veux dire, les enfants dans le village, franchement, les bébés, on ne savait pas qui était la mère, tellement les bébés passaient de bras en bras, quoi. Donc ils ont encore cet esprit presque de clan, de communauté même dans les villages. Ils ont encore cet esprit de communauté chez les Chipibo?
Alors, il y a encore, comme tu dis, par rapport à cette expérience sénégalaise que tu as, africaine, il y a encore ça, évidemment, mais si tu veux, ça tend à s'éteindre dans le sens où, enfin, ça se dilue dans le sens où, dans la communauté, les gens sont de moins en moins engagés dans le bien communautaire. On a encore des travaux collectifs. Nettoyage d'une parcelle collective, nettoyage du terrain de football où tous les jeunes vont s'associer pour vraiment maintenir ça. Mais c'est de moins en moins évident. Et puis, avec un petit peu les histoires de jalousie, entre guillemets, de mauvais œil, de regarder ce que fait le voisin, ceux qui vont tendance à avoir plus de richesses vont acheter des maisons à l'extérieur. Donc on va retrouver des personnes, des chamans notamment d'un village qui ont pu gagner pas mal d'argent avec justement la venue des Occidentaux intéressés par ces pratiques chamaniques, se construire des maisons à l'extérieur, quitte à construire une maison même dans la capitale pour héberger leurs enfants et tout ça à l'insu, on va dire, des voisins, pour que les voisins ne soient pas en train de critiquer et dire, ah, celui-ci, quand il a une meilleure maison, etc. Donc voilà, donc il y a peut-être moins de répartition de la richesse.
Au vu de tes expériences avec les Indiens, quelle est selon toi la chose que l'on a perdue ou bien d'ailleurs qu'on n'a jamais eue et qui manque à notre civilisation?
Ouais, bon, c'est vrai que, bon, comme je te dis, donc depuis, il y a eu quand même pas mal d'années qui se sont passées, donc j'ai d'autres filtres, hein, qui se sont mis sur cette expérience-là. Mais je pense que c'est surtout un petit peu à la lueur des propos des ethnies, même si tu écoutes les Kogi qu'on a beaucoup entendus, on a vu beaucoup de reportages, ou même d'autres peuples africains, ou même les Shipibo. Mais c'est vraiment, je pense, remplir un petit peu les premières nécessités, puis avoir une conscience globale. Et ça, enfin, une conscience globale et une conscience holistique. Et c'est vrai que ça, je pense qu'on l'a complètement perdu. Enfin, c'est les Kogi qui le mentionnaient très bien par rapport au fait, justement, que ils appellent les Blancs les petits frères. Et ils disent parfaitement que on est bien déconnecté, si tu veux, du rapport à la nature, et que on a préféré
mettre en avant d'autres intérêts et surtout l'intérêt individualiste qui va aller à l'encontre de, justement du bien-être de plein de personnes. Et le fait qu'on n'ait pas cette conscience de son prochain dans ce sens, enfin, d'avoir une vision globale, santé globale, tu as des gens qui travaillent aussi dans ce sens. J'avais découvert il n'y a pas longtemps un site internet où ils parlent justement de la santé de la planète comme une santé holistique où il y a la santé de l'homme, il y a la santé des animaux, il y a la santé des plantes et c'est la santé de notre société dans son ensemble et du coup c'est la santé de la planète. Et je pense que ça, on l'a complètement déconnecté. Donc, c'est, à mon sens, c'est plus le côté l'aveuglement, le fait de rechercher plus son petit bonheur qui est construit sur des modèles justement qui sont à courte durée. Tu vois, le bonheur de la famille nucléaire avec justement la carrière des enfants et avoir tout ce qu'il faut sur le plan matériel, mais on ne va pas au-delà. Et c'est vrai que si on prend notre planète comme un corps humain, je veux dire, s'il y a une partie du corps humain qui ne fonctionne pas bien, je veux dire, le reste du corps ne se sent pas bien non plus. Et on devrait pouvoir considérer ça, mais on a une déconnexion qui est faite par rapport à ça. Et c'est vrai que je pense que les populations traditionnelles, elles ont encore ce sens-là, elles ont cette vision globale, de cette santé globale, mais c'est aussi en perte. Je veux dire, chez les Shipibos, il y a plusieurs tendances aussi. Moi, c'est ce que j'avais pu voir, c'est qu'en fonction de certains villages, de certaines communautés, je veux dire, ils sont aussi dans ce désir d'avancer. Et j'ai été très contente de voir un documentaire sur eux il n'y a pas longtemps, où je vois les enfants que j'avais connus tout petits, donc il y a bientôt, il y a plus de 10 ans de ça, je dirais presque 20 ans, ben, c'est incroyable de dire ça, mais voilà, ça fait presque 20 ans maintenant. Oh là là. Et du coup, ces enfants ont grandi et on les voit dans ce reportage où ils disent qu'ils veulent quitter justement le village, qu'ils veulent aller à Lima. Enfin, c'est des jeunes, c'est aussi des jeunes de leur temps qui sont connectés sur Internet, qui sont sur Facebook, donc qui échangent avec d'autres jeunes d'autres villes. Et du coup, les parents les ont laissés partir. Donc, ces deux frères, ils sont partis à Lima pour faire une expérience et aller voir les Shipibos qui vivent à Lima. Dans ces villages qui sont comme des bidonvilles hein, sur les hauteurs de Lima. Et du coup, ils ont bien vu que ce n'était pas possible, que là où ils habitaient, c'était bien plus riche, il y avait beaucoup plus de richesses parce qu'ils étaient avec leurs parents, qu'ils avaient du temps, qu'ils étaient proches de la nature, que même si ils n'avaient pas autant de richesses, comme ils peuvent le voir à la télé, de richesses matérielles, mais je veux dire, au moins, ils avaient quand même une certaine liberté aussi dans leur village, ils avaient de quoi faire, donc c'était bien de pouvoir voir ça. Mais ouais, pour répondre à ta question, je pense que c'est surtout ça, c'est la déconnexion au fait qu'on est assez insensible au malheur de son prochain, même si je veux dire les humains sont quand même très solidaires. Moi, je travaille dans le monde de l'humanitaire, je travaille pour la Croix-Rouge britannique, le peuple britannique donne énormément. Je veux dire, la Croix-Rouge britannique se finance sur des fonds privés, donc sur des personnes qui donnent, sur tout un chacun qui donne, parce que les gens croient aussi au fait qu'il faut aider son prochain, mais c'est aussi beaucoup pour l'extérieur, pour l'étranger, à l'international, etc. Et les Français, c'est pareil, je veux dire, il y a beaucoup d'ONG qui fonctionnent comme ça, mais c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que ça devrait être immédiat dans ton quartier, au sein de ta famille, d'être vraiment justement de répondre à une urgence dès qu'il y a quelqu'un qui va mal, comme on a pu le faire pour des amis, de cœur. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui va mal à côté, ben c'est vraiment de se sentir mobilisé pour ça, quoi.
Quand tu parles de vision holistique, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est quoi comment on peut... Nous, ici, on n'a pas une vision holistique des choses, c'est ça ?
Ben, le fait de, si tu veux, quand tu vois la médecine, comment elle est pratiquée, c'est par morceaux. Tu vois, la médecine conventionnelle, c'est par morceaux. C'est le spécialiste, l'ophtalmo, l'otorhino, spécialiste des pieds, spécialiste du ventre, urologue, neurologue, cardiologue, etc. Alors que, à mon sens, il faudrait qu'on ait une approche plus à la chinoise, à l'asiatique, en tout cas, où vraiment on prend le corps dans son ensemble et on essaie de considérer des choses qui ne sont pas forcément physiques et qu'on va considérer le mode de vie de la personne et qu'on va considérer ses pensées par rapport à l'effet que ça peut avoir sur sa santé, ses activités, son entourage, etc. Donc, qu'on prenne quelque chose, qu'on prenne en compte toute cette globalité de la vie d'une personne, par exemple, si on parle du système de santé. Donc, c'est plus facile de parler de la santé, c'est plus clair. Donc, pour la planète, une vision holistique, c'est ça. C'est-à-dire que c'est d'essayer de voir la planète dans son ensemble, dans sa globalité, voir comment elle a fonctionné. Je pense que maintenant, les scientifiques ont pas mal de données sur certains cycles, les cycles que peuvent avoir la Terre, etc. Et que, effectivement, la manière dont on va agir dans certains endroits, prendre toutes les richesses du sous-sol, épuiser les nappes phréatiques, tuer toutes les plein d'espèces animales, etc. Que forcément, ça va déséquilibrer le mode de fonctionnement de la planète. Donc, c'est de prendre en compte, c'est-à-dire que nous, dans notre action, dans notre vie sur cette planète, on devrait être en mesure de prendre en compte tout ça, de comment on se positionne sur cette planète par rapport à nos besoins, évidemment, mais par rapport à justement comment fonctionne cette planète. Si on veut, si on considère qu'on veut que ce soit encore notre maison pour longtemps.
Comment est-ce que les Shipibo voient le rôle de l'homme? Pour eux, c'est quoi le rôle de l'homme dans la nature?
Je ne sais pas si je pourrais vraiment répondre à la question, mais ce que je peux répondre, c'est comment gérer sa place par rapport à l'environnement. C'est-à-dire, moi, mon travail de recherche, justement, c'était d'essayer d'expliquer comment ces personnes-là, comment ce peuple-là se positionne face à son environnement. Donc, c'était justement toutes ces conceptions sur le monde de l'invisible, et de gérer le monde physique, enfin sa réalité physique, son quotidien, par rapport à ce monde de l'invisible. Donc il y a des règles qui viennent des esprits et qui font que tu dois marcher dans une certaine direction, qu'il y a des choses que tu ne vas pas faire vis-à-vis de l'eau, que tu ne vas pas mettre certains déchets dans l'eau, que les femmes, par exemple, menstruées ne vont pas aller se laver dans l'eau, parce que sinon, tu as l'esprit du dauphin, ça va attirer certains esprits, etc. Donc, c'est tout un tas de règles comme ça. En forêt, c'est pareil, la manière dont tu passes à côté de certains arbres. Il y a des arbres que tu ne pourras pas toucher, parce qu'on sait que c'est des grands esprits qui sont là, et que si tu as besoin de cet arbre-là à des fins thérapeutiques ou même alimentaires, il va falloir que tu demandes la permission, que tu fasses des petits cadeaux à cet arbre, que tu fasses une espèce de prière, enfin une demande particulière. Donc c'est un peu comme ça qu'ils vont gérer leur environnement. Ça, dans la tradition, je veux dire, maintenant, c'est vrai, comme je te dis, ça évolue aussi, et il y a plusieurs degrés d'engagement des personnes, enfin justement du monde Shipibo, par rapport à ça. Mais je veux dire, là, ils viennent de ça, ils viennent de ça. Donc il y a encore beaucoup de croyances qui sont encore très valides par rapport à ça. Et donc c'est ça que je pourrais dire. Mais en tout cas, la cosmologie du monde Shipibo est basée justement sur l'anaconda. Donc l'univers est entouré d'un grand anaconda et l'homme fait partie de ça, mais est un petit point là-dedans. Je veux dire, c'est pas l'élément essentiel et c'est pas l'élément suprême, certainement pas. C'est-à-dire que les êtres suprêmes, ce sont justement des esprits qui sont forts, les esprits de la nature, comme donc l'anaconda, c'est un des esprits le plus fort. Tu as l'esprit du jaguar aussi, tu as l'esprit du dauphin, tu as l'esprit du colibri aussi, et ces grands esprits de la nature qui sont transposés justement sur l'univers, c'est avec eux que tu dois dealer, je veux dire, pour être en harmonie, enfin pour être bien dans le monde. Donc s'il y a un problème, si par exemple tu vas avoir un problème de santé, ce que nous on va appeler peut-être santé, un problème physiologique, eux ils vont se poser la question d'une autre façon, c'est-à-dire qu'ils vont se dire j'ai certainement marché à un endroit où je ne devais pas marcher, ou alors on m'a fait du mal. Il y a aussi tout ce système de sorcellerie qu'on retrouve très bien aussi en Afrique, mais c'est pas forcément ça, ça peut être aussi des esprits que tu as dérangés parce que tu n'as pas été dans un bon comportement. Donc, tout comme l'idée de la couvade, par exemple, ça, on retrouve ça dans plein de peuples amazoniens. La couvade, c'est quand, à la naissance d'un enfant, les parents doivent adopter justement certaines règles. Donc, c'est surtout des règles liées à la diète alimentaire, donc des choses qu'ils ne doivent pas manger. La mère, on va suivre ça, on peut comprendre parce que la mère allaite, etc. Mais le père aussi. Le père doit suivre ça parce qu'il doit être dans une certaine énergie pour protéger cette naissance et ce nouvel être qui est fragile et qui vient au monde. Donc, les deux, mais le père aussi, est censé rester tranquille, c'est-à-dire ne pas être en train de sortir à tout vent, enfin de s'exposer au niveau des énergies avec les autres, donc certainement pas aller boire, etc. Donc, tout ça fait que si ça, ce n'est pas respecté, je veux dire, l'enfant peut tomber malade et l'esprit peut être retiré, l'esprit de l'enfant. Donc, il peut mourir, en fait. C'est un peu une conception comme ça. Donc, voilà.
Mais ça peut paraître être des superstitions, tout ça.
Alors, tu sais, quand on est ethnologue ou anthropologue, donc moi, c'était une de mes formations, donc d'anthropologie sociale et culturelle. En fait, on étudie des systèmes de croyances. Donc, c'est vrai que après, c'est de pas j'y crois ou j'y crois pas, c'est d'expliquer comment ça fonctionne et
D'accord.
comment ces personnes-là, dans quel mode de croyance ils fonctionnent. Tout comme la science est aussi un monde de croyances. Tout comme, je veux dire, dans notre société occidentale, la manière dont fonctionne l'argent, etc. Enfin, on est sur des systèmes de croyances, mais comme c'est notre société, on a du mal à prendre la distance. Quand on parle comme ça de peuples qui nous sont loin, tout de suite, on voit que c'est une réalité tellement différente à la nôtre que on voit très bien que c'est autre chose. Mais on est tous dans des systèmes de croyances, et du coup, c'est vraiment enfin, en tout cas, quand j'étais dans cette position de chercheur en anthropologie sociale, c'était vraiment de comprendre justement comment ces populations-là pouvaient fonctionner. Donc, superstition ou pas, moi, je porterai pas de jugement parce que pour avoir vécu avec eux, il y a un certain moment, je veux dire, j'ai pu être tentée d'absorber leur système de croyance et de vouloir rester dans leur système de croyance aussi. Et c'est un peu mon travail d'écriture de la thèse, en fait, qui m'a fait revenir, enfin, qui m'a fait pouvoir aller d'où je venais, retourner vers cette culture, retourner vers la mienne, et de pouvoir observer avec la distance, parce qu'il y avait un moment donné, je rêvais même comme eux, ce que je rêvais, ça avait des significations, pour moi ça n'avait pas de signification, mais si je racontais mes rêves, ça cadrait complètement à leur croyance, justement, à leur explication onirique, et donc c'est vraiment particulier, donc ouais, je pourrais pas juger. C'est des sociétés plus animistes qui croient justement en l'esprit avant le corps. Tu vois, c'est par exemple quand Christophe Colomb a débarqué, je veux dire en Amérique du Sud, il y a si tu veux, des narratifs, hein, qui racontent un petit peu comment les Indiens ont vu ça. Et je veux dire, eux, les bateaux arrivés, c'était tout de suite, ils voyaient des esprits arriver. Ils n'ont pas vu des humains, même si ils pouvaient reconnaître la forme. Mais ce qu'ils voyaient, c'était d'abord des esprits. Et après, je veux dire, l'humain, je veux dire, en Amazonie, dans les sociétés amazoniennes, un humain, ça se construit. C'est-à-dire, tu nais esprit, mais après, c'est avec ta culture que tu deviens humain. Ce n'est pas parce que tu as deux pieds, deux yeux, deux mains, etc., que tu es d'emblée un humain. Donc ça se construit d'être humain, vraiment avec évidemment tous les rituels, tous les rites de passage, nous aussi ce qu'on va appeler la culture évidemment, mais c'est ça se modèle, tout comme en Afrique quand on fait quand on masse les bébés au karité, etc. On peut les modeler, on va leur donner une forme, vraiment la forme qu'on va vouloir. On va vouloir donner plus de fesses aux filles, on va modeler les fesses, etc. On va étirer les membres d'une certaine façon. Et c'est vraiment pour qu'ils soient conformes à l'image qu'on a d'un humain.
Tu crois qu'elle est perdue, cette culture-là, avec l'écrasement qu'il y a du capitalisme?
La culture Shipibo en particulier ou la culture des...
Oui, je
Non,
pense
je
au
pense.
Shipibo.
Bon, alors les Shipibo, comme tu dois bien le savoir, je pense qu'ils sont maintenant bien connus par beaucoup d'Occidentaux qui sont très intéressés par leurs pratiques chamaniques. C'est pour ça que les chipibos se maintiennent, notamment par rapport à la prise d'ayahuasca, etc. Et ce qui fait que l'intéressant là-dedans, c'est le fait que les chipibos ont vu beaucoup d'Occidentaux venir pour prendre des plantes, pour tester, donc pour faire des diètes de plantes, pour prendre l'ayahuasca. Et du coup, ça, les jeunes, ça leur a donné un regain aussi en se disant, il y a des gens de l'extérieur qui viennent de très loin, qui s'intéressent à ma culture. Et du coup, bon, on était en train d'abandonner justement ces pratiques et pourquoi pas, moi, je pourrais aussi pratiquer et m'y mettre. Donc, ça, c'est l'aspect positif, si tu veux, d'avoir eu ce regard d'occidentaux qui sont des gens d'une certaine culture avec certains moyens. Et parce que c'est vrai que les Péruviens même, ou sur le plan local, ce n'est pas une population qui est forcément valorisée, même si quand on arrive dans la zone, ce qu'on voit en premier, c'est l'artisanat, justement, leur artisanat, leur fabuleux artisanat, mais ils ne sont pas forcément super valorisés localement. Donc c'est vrai que le fait d'avoir du monde qui vient en touriste spirituel, entre guillemets, ça fait qu'il y a quand même pas mal de familles qui finalement se sont réintéressées à ça parce qu'elles savent aussi que c'est un moyen d'avoir de l'argent. Donc, et puis elles y trouvent leur compte à plusieurs niveaux, donc sur l'aspect financier, mais sur aussi le fait d'être renforcées dans leur propre culture. L'auto-estime aussi, c'est quand même très important. Et je pense qu'elles ne. En tout cas, en ce qui concerne les Shipibo, je pense que c'est pas près de s'arrêter. Parce qu'ils connaissent leur valeur par rapport à ça. Et ils savent que c'est très important. Ils savent que les esprits, bon, ils savent aussi qu'ils ont perdu en connexion avec les esprits forts de la nature et que les chamans d'autrefois étaient bien plus vigoureux et
Pourquoi ils
bien
ont
plus.
perdu?
Parce que avec aussi la déforestation, donc le fait que c'est pas forcément eux qui pillent leurs terres, mais qu'il y a des grandes exploitations de bois justement par le gouvernement local, enfin des entreprises qui viennent et qui coupent les arbres et qui passent devant chez eux, qui passent devant les chipibos. Donc tu as des concessions, si tu veux, entières qui sont exploitées. Donc tu peux avoir un village avec la forêt et puis juste à côté ou même dans les champs de ces personnes, des arbres qui se font couper sans autorisation. Et ça, ils pourront tous le dénoncer. Moi, je l'ai vu aussi de mes propres yeux où tu embarques des arbres qui font plus d'un mètre de large. C'est vrai que c'est à pleurer, mais ça, c'est tous les jours, constamment. Depuis des années, tu vois, c'est l'histoire de la forêt amazonienne. Au Brésil, on voit très bien sur Google justement l'évolution depuis toutes ces dernières dizaines d'années, comment ça rétrécit. Et ça se passe partout, ça se passe aussi au Pérou. Donc le fait d'avoir ces arbres coupés, ça fait qu'il y a moins de que la nature s'appauvrit aussi. Il y a aussi l'exploitation du poisson qui n'est pas forcément fait par les chipibos, mais aussi par les populations métisses. Un local qui viennent vraiment, qui prennent les poissons, qui les sèchent, qui les salent, qui les vendent, qui en font un vrai business. Et ce qui fait que, justement, on trouve de moins. Tu as un énorme poisson qu'on appelle le païtché, là, qui est vraiment énorme, qu'on trouve de moins en moins, que tu vas trouver de moins en moins de dauphins, que forcément, les animaux s'y retrouvent moins dans leur habitat. Et ce qui fait que bah, les humains sont moins connectés à ces esprits, il y a moins de densité naturelle, moi je dirais, donc ce qui fait que t'as moins de connexion quand tu veux faire les diètes de plantes et que tu veux trouver cette connexion aux esprits, c'est moins fort. Et que pareil, les plantes avec lesquelles ils vont faire ces rituels, il faut aller les chercher pour qu'elles soient fortes. En effet, il faut aller les chercher vraiment assez loin dans la forêt. Et maintenant, justement, avec ces histoires-là, tu auras tendance à moins en trouver. Donc ça, c'est un peu l'histoire qu'on retrouve sur toute l'Amazonie.
Qu'est-ce que je peux retirer de la sagesse Shipibo pour construire mon utopie? C'est pas facile comme question.
Moi, je pense que le sens de la famille, c'est quand même déjà très important. C'est vrai que ça, c'est en Occident, on se déconnecte de plus en plus. Le fait de mettre nos personnes âgées dans des maisons de retraite, le fait qu'on n'ait plus de place, qu'on vive seul dans des petites maisons, dans des petits appartements, qu'on n'a plus de place pour accueillir ses parents. Je pense que ça, c'est quelque part, c'est grave. Moi, je sais, personnellement, j'aurais effectivement beaucoup de mal à vivre avec ma mère en permanence. Mais non, mais parce que c'est vrai que j'ai pas été habituée sur ce mode-là. Mais moi, je vois ma famille sénégalaise. Bien évidemment, la maman de mes frères et sœurs ici va vivre. Ils vont. C'est d'abord c'est mes sœurs qui vivent dans la maison familiale. Elles sortent pas de la maison familiale quelque part. Mais ça a tout son sens. Mais en France, j'ai aussi ma grand-mère. Pareil, j'ai une de mes tantes qui vit avec elle. Et quelque part, cette tante-là, elle voit très bien qu'il faut rester auprès de la grand-mère. Et moi, je trouve ça formidable. Je veux dire, c'est quand même assez fort de Roquefort que nos anciens, il faut on soit obligé de les placer dans des maisons à part, etc. C'est quand même très dommage. C'est quand même très dommage. Mais bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'est plus élevé dans ce sens-là. On n'est plus élevé avec nos grands-parents, avec nos oncles et tantes. On est dans des familles nucléaires. On n'est plus dans les familles élargies. Donc c'est ça aussi. On est déjà tout petit, on n'est plus là-dedans. Donc moi, je dirais de revenir à ça. Mais il y a aussi la manière dont on élève les enfants, forcément. Je pense que l'éducation des enfants, c'est là où il faut vraiment qu'on se penche. Justement, je regardais il n'y a pas longtemps un monsieur qui s'appelle André Stern, je ne sais pas si tu en as entendu parler.
Oui, je l'ai interviewé.
Ah ben voilà, super. Et donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié ses propos. Donc, bon, le fait aussi, bon, lui, comment il a grandi, comment il élève aussi ses enfants. Moi, je dirais quelque part, j'ai pas eu les couilles, je dirais, de faire ça, parce que j'étais en proie à mes propres peurs aussi, de par mon histoire, etc., mais par rapport à mes enfants. Mais je trouve déjà d'être à l'écoute des enfants et d'avoir une autre vision sur ce que sont les enfants, qu'on ne doit pas les formater, mais justement les laisser s'ouvrir comme des fleurs et qu'ils puissent fleurir et nous montrer leur potentiel, mais pas dans le formatage dans lequel on nous a mis et dans lesquels on veut aussi les mettre. Je trouve que ça, déjà, c'est super, quoi. Enfin, ça serait super qu'on arrête d'être dans des écoles compétitives, qu'on valorise d'autres choses que les bonnes notes et l'aptitude à l'orthographe, à la grammaire et aux mathématiques. Que les enfants soient valorisés, justement, pour leur compassion. Moi, j'étais trop contente de voir ma fille qui a eu son bulletin de notes où justement la maîtresse disait bravo, tu as vraiment beaucoup participé à la bonne ambiance de la classe, etc. J'ai apprécié qu'elle puisse recevoir, tu vois, ce genre de commentaires, mais j'aimerais que ce soit vraiment encouragé en tous les niveaux, parce que sinon les enfants ils sont en proie à des peurs qui sont inutiles par rapport au système de notation. Et alors peut-être que le monde anglophone est un peu plus avancé là-dessus que la scolarité à la française, mais je pense qu'on a beaucoup à faire par rapport à ça. Donc il y a ça, et donc je mettrai en lien évidemment l'intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on ait des activités qui puissent se faire vraiment avec les enfants, les anciens, même si ce n'est pas forcément nos propres parents ou nos propres grands-parents, mais que justement cette relation intergénérationnelle puisse se faire de manière beaucoup plus facile. Donc, qu'on ait ce genre d'initiative, enfin, revenir à des choses qui soient beaucoup plus humaines, plus de solidarité. Mais en France, il y a quand même pas mal de choses, j'ai l'impression, qui reviennent. Les systèmes de fonctionnement, justement, je crois que c'était le philosophe que tu avais interviewé l'autre fois qui parlait de ces groupes de voisinage, ces systèmes de coopératifs pour s'approvisionner avec des produits locaux. On essaie de revenir à des choses qui sont plus basiques, et je pense que ça c'est vraiment important. Et puis ouvrir la conscience. Après, quand on est dans d'autres sphères. Sur le plan stratégique et politique, c'est évidemment faire beaucoup de plaidoyer au niveau des personnes de pouvoir, essayer d'avoir des dirigeants et des leaders quand même qui soient dans le cœur, qui soient vraiment dans la compassion, et que si on fait du profit dans l'entreprise, c'est au bénéfice de quelque chose de plus grand que soi et pas pour son propre compte en banque, parce que ça, c'est pas possible, quoi.
Mais alors, qu'est-ce qui est plus grand que soi?
Bah, qu'est-ce qui est plus grand que soi? C'est bien sûr, c'est le bien-être de la planète, c'est la santé que je mentionnais avant de la planète. Alors, bon, on peut prendre l'aspect écologique, évidemment, la préservation de la planète sur le plan au niveau de la nature, au niveau des animaux. Ça veut dire déjà faire attention, nous, dans notre quotidien, avec tout le mouvement, notamment zéro déchet. Mais c'est aussi veiller à ce que. À ce que son voisin et son prochain aient ce qu'il faut, c'est-à-dire que tout le monde ait accès à la santé, que tout le monde ait accès à l'éducation. C'est pas possible qu'il y ait des gens qui puissent aller se faire soigner et d'autres qui peuvent pas aller se faire soigner. Alors, je dis pas que la médecine conventionnelle est la meilleure, mais je veux dire, en tout cas, dans les choses de base, dans les accès aux services de base, il faut quand même que tout le monde puisse avoir accès à ça et c'est un droit, je veux dire. Ça fait partie des droits fondamentaux de l'humain d'avoir l'accès à une alimentation saine, d'avoir accès à des services de santé corrects, d'avoir accès à l'éducation. Donc, toutes ces choses-là, ça doit être. Voilà. Et que, si on parle au niveau des entreprises, c'est au niveau de la conscience de ces leaders, c'est justement. C'est ne pas aller acheter des terres dans un pays éloigné pour aller faire tout ce que je veux n'importe comment au niveau de l'agriculture, par exemple, et de justement dégénérer ces terres-là au profit de mon pays. Donc, il y a beaucoup de grandes puissances qui le font. Je veux dire, on est aussi toujours dans la démarche de la France-Afrique où on essaie d'exploiter tout ce qu'on peut sur le continent africain. Et ça, toutes les puissances essaient de le faire sur une partie de la planète. Et ça, c'est pas possible non plus. Je veux dire, on en paye de toute façon, on en paye les conséquences. Je veux dire, là, moi, je travaille surtout le Sahel. Je veux dire, tout ce qu'on vit dans le Sahel aujourd'hui, on en paye forcément les conséquences. Mais c'est la même chose pour l'Amérique latine. Je veux dire, la politique de l'Amérique vis-à-vis de l'Amérique du Sud. Tout ce qui a été fait, tout le fait de vouloir passer certains dirigeants qui vont faciliter, je veux dire, des profits de cette grande puissance, par exemple, c'est tout simplement plus possible. Malheureusement, oui, on a beaucoup de chemin à faire sur le plaidoyer au niveau des leaders, je pense. Énormément, énormément, énormément. Énormément.
Alors, il y a une question subsidiaire. C'est en fait le monde entier s'arrête et tu peux donner une consigne au monde entier et les plus de 7 milliards d'individus sur Terre vont suivre cette consigne.
Ben, moi, je dirais, ce serait le mantra je m'aime et je m'accepte tel que je suis, et j'aime et j'accepte toutes les personnes sur cette planète telles qu'elles sont. De vraiment, ce serait juste l'amour, en fait. C'est un peu bateau, hein, je vais te dire, de dire ça. Mais pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux, en tout cas, moi, dans mon quotidien et avec mon entourage, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire que si je suis vraiment positionnée dans le cœur avec. En m'ayant bien dit, je m'aime et je m'accepte tel que je suis, en ayant rempli toutes mes cellules d'amour, en ayant vraiment, en m'ayant inondé d'amour, je vais moi-même dégager cet amour et je vais regarder les autres avec cet amour et je vais vouloir tout le meilleur pour ces personnes que je vais croiser sur ma route. Donc c'est juste ça que je dirais, quelque chose de très simple, mais c'est vraiment ça, quoi.
Mais la violence. Je te remercie, Rama, d'avoir partagé bah, aussi ce parcours que tu as eu dans la jungle un peu, hein, hein, parce que tu es allé dans la jungle.
Ouais, la forêt, hein, c'était la grande forêt amazonienne, même si c'était plus de la forêt primaire. Mais non, non, je suis très contente d'avoir eu cette expérience, et surtout que j'aimerais pouvoir partager ça avec mes enfants dans quelques temps, pouvoir les emmener qui découvrent aussi ces populations, voilà, avec différents modes de vie, c'est toujours intéressant. Merci à toi, Johanna.
Merci. Vous vous êtes jamais demandé ce que vous foutiez ici? Pourquoi on débarque ici? On ne connaît pas vraiment les règles. Moi, il y a une chose qui me sidère chaque jour, c'est qu'en fait, on est entouré, on est dans une espèce de matrice d'intelligence. aussi loin qu'on peut aller dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, c'est complètement bouleversant. Le monde est fait d'intelligence. À un moment, Rama dit pour les Kogi, l'homme est un petit point là-dedans. Et peut-être j'ai l'impression que l'homme manque d'humilité. Mais ce qui est, il y a un contraste, parce qu'en fin de compte, on a une intelligence qui est ridiculement petite par rapport à l'intelligence du monde dans lequel on vit. Et je ne parle même pas des êtres vivants, je parle juste de la physique de notre monde. Donc on est en même temps rien du tout, et en même temps, c'est tellement extraordinaire ce qu'on a réussi à faire, notamment dans l'exploration scientifique de notre monde. C'est tellement fou de pouvoir jouer avec la matière que bah, ça me rend un peu triste quand je vois qu'on n'est pas capable d'utiliser notre intelligence, qui est déjà pas mal, pour vivre bien. J'ai trouvé marrant aussi la façon dont les Africains, par exemple, sculptent leur corps de leurs enfants en les massant pour en faire des humains. D'avoir cette conscience qu'on n'est pas humain, c'est notre culture, ce sont nos croyances qui font de nous des humains. Peut-être que notre civilisation oublie avec sa rationalité qu'elle est bourrée, mais bourrée de croyances et de superstitions. On regarde ces peuples comme des peuples superstitieux qui ont mis leurs croyances parce qu'ils ont peur de la nature, parce qu'ils ne la comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas cette fameuse science. Mais je crois pas qu'on en soit sorti, pas du tout, et en écoutant un peu à droite, à gauche, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la science, on continue à en fait construire des croyances, et en plus on essaie de convaincre les autres. J'écoutais un TEDx d'un monsieur qui allait évangéliser justement des tribus en Amérique latine, et puis face à la simplicité des gens qu'il a rencontrés, il est devenu athée. Et j'avais trouvé ça drôle. Mais on a cette propension à vouloir convaincre et que les autres se conforment à notre mode de vision ou de croyance. Ça, c'est assez... ça me laisse perplexe, voilà. Ce que je retiens aussi, c'est que je crois que le plus gros souci peut-être, ou d'ailleurs prenons-le du côté positif, ce qu'il y a à construire chez l'homme, c'est une relation consciente à lui-même, à la nature et aux autres. Et dans nos sociétés, c'est peut-être ce qui fait défaut, ce qu'on a perdu. Donc ça me fait penser qu'il va falloir que je fasse bientôt une interview sur l'éducation. Hein, je pense que c'est primordial dans une société. Mais tout ça, comment est-ce qu'il faut construire un système de croyances en ayant conscience que ce sont des croyances? Est-ce qu'il faut construire un système qui permet toutes les croyances? Parce que ça, c'est un autre truc essentiel, quoi, moi j'ai l'impression. J'aimerais beaucoup aller sur le terrain, alors du territoire justement, parce que je crois beaucoup en la diversité. Déjà parce que c'est inhérent à ce que nous sommes tous différents. Donc comment aujourd'hui dans les sociétés où on est ou dans mon utopie, je vais pouvoir construire un système qui valorise la différence, la diversité, et comment on peut développer nos cultures dans un monde globalisé. Voilà, parce que moi c'est vrai que j'aime voyager et j'aime rencontrer des gens très différents de moi. Donc, et en même temps, j'aime ma culture bretonne, j'aime où je suis, les spécificités de mon territoire. Donc c'est vraiment un domaine que j'ai envie d'explorer. Bon voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps. Pour en savoir plus sur les Indiens Kogi, je vais vous mettre en lien une conférence d'Éric Julien. Éric Julien, j'ai eu la chance de faire un de ses ateliers et puis d'intervenir avec lui à la ferme des Amanins. Je vais vous mettre en lien une conférence, je trouve, donne pas mal de points clés notamment sur la vision des colis. Nous nous retrouvons dans quelques jours pour une interview avec Fabrice qui va nous parler de démocratie participative, d'intelligence collective, on va rentrer vraiment dans les rouages de à quoi ça pourrait ressembler. Et je vous souhaite en attendant une magnifique journée. À très bientôt.